Bonjour à tous.
Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, gloire à toi parce que c'est toi qui es l'auteur de transformations formidables, de changements, de situations extraordinaires. Et nous l'avons vu avec l'exemple de Jacob et tu l'as fait avec bien d'autres encore et tu l'as fait avec nous. Et Seigneur, rends-nous encore attentifs à ton œuvre, à ce que tu fais dans les vies, à ta bonté, ta bienveillance envers nous qui sommes pécheurs, et que toute la gloire te revienne. Amen. Je vous invite à prendre tout de suite vos Bibles et à déjà les ouvrir dans le livre de Ruth au chapitre 4. Donc le livre de Ruth au chapitre 4. Le titre de la prédication ce matin est « Il ne se repose jamais de donner le repos ». Il ne se repose jamais de donner le repos. La semaine passée, en Ruth, au chapitre 3, nous nous étions arrêtés avec cette question pleine de suspense. Qui va devenir le rédempteur de Naomi? Qui aura le droit de rachat sur elle et sur tout ce qui lui appartient? Qui aura le droit d'épouser cette femme valeureuse qu'est Ruth? Est-ce Boaz, que nous avons appris à connaître depuis le chapitre 2 et qui a toutes les qualités requises pour être ce rédempteur? Ou est-ce que ce sera ce proche parent dont Boaz nous a parlé la semaine passée au chapitre 3, au verset 12, et qui a la priorité dans le droit de rachat? J'imagine que vous avez tous hâte de connaître le fin mot de l'histoire. Et vous n'êtes pas les seuls. Naomi et Ruth attendaient, elles aussi, l'accomplissement de leur rédemption. Et ce matin, nous allons enfin savoir comment cette affaire va se terminer. Et donc, le premier point de la prédication, un homme exceptionnel travaillant pour le repos des autres. Un homme exceptionnel travaillant pour le repos des autres. Et juste, revenons un peu au chapitre 3, au verset 18, que nous avons lu la semaine passée et sur lequel nous nous sommes quittés. Voilà comment se termine le chapitre 3 avec cette parole de Naomi. Naomi dit « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Et c'est exactement ce que va faire Boaz. Il se met tout de suite en action, car au verset 1 du chapitre 4, nous lisons « Boaz monta à la porte de la ville et s'y arrêta. » Et la stratégie adoptée par Boaz pour régler l'affaire au plus vite est très intelligente. En effet, les villes de l'Antiquité étaient ainsi construites que l'entrée et la sortie de la ville ne se faisaient que par un seul endroit, la porte de la ville. Et donc, en allant et en restant posté à la porte de la ville, Boaz maximise ses chances de rencontrer ce proche parent. Il maximise les chances de régler l'affaire au plus vite et de donner ainsi du repos à Naomi et Ruth. Boaz est déterminé et il ne se reposera pas tant que l'affaire ne sera pas réglée, tant que les personnes dont il a la charge ne seront pas dans la sécurité et le repos. Quel homme ! Quel homme valeureux ! Et à l'instar de Boaz, Robert est lui aussi un homme valeureux. Dans un ouvrage que j'ai lu il y a quelques années déjà, l'auteur du livre, de ce livre que j'ai lu, décrit la vie de Robert et Muriel, un couple chrétien, marié, qui s'aime et qui était très impliqué dans le ministère. C'était leur métier à temps plein. Et ils aimaient beaucoup leur travail. Et un jour, alors que Muriel répétait un discours, elle oublia complètement ce qu'elle devait dire. Sur le moment, cela fit rire Robert et Muriel, et ils ne prêtèrent pas plus attention à ce petit événement. Mais quelques années plus tard, ils apprirent que ce n'était pas juste un oubli occasionnel de la part de Muriel, mais la maladie d'Alzheimer. Plus les années passaient, et plus la maladie s'aggravait. Et cela jusqu'au jour où Muriel perdit toute autonomie. Elle était devenue un danger pour elle-même. Robert avait 57 ans lorsque ce jour arriva. Et savez-vous ce que fit Robert ? Eh bien, bien que cela fût extrêmement douloureux pour lui, il prit la décision de quitter le ministère. Son travail qu'il aimait faire, prendre soin des autres, de l'Église, servir le Seigneur. Et cela afin de prendre soin de son épouse. Robert a choisi de se sacrifier, de ne se donner aucun repos pour offrir et donner du repos à son épouse, Muriel. À la fin de ce témoignage, l'auteur dit, je cite, « Ce sont des hommes comme Robert que les femmes doivent rechercher, des hommes qui sont prêts à sacrifier leur vie pour le bien de leur épouse, comme Robert l'a fait, et de manière plus importante, comme Christ l'a fait pour son épouse qu'est l'Église. » Fin de citation. Oui, le plus bel exemple d'un homme qui se sacrifie pour son épouse afin de lui offrir du repos, c'est celui de Christ. La Bible dit « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Mesdames, si vous êtes célibataire et que vous avez le désir de rencontrer un homme, ayez pour critère premier, prioritaire, des hommes qui sont à la ressemblance de Robert, de Boaz, de Christ, des hommes qui ne cesseront jamais de travailler, de se sacrifier, qui ne se reposeront jamais pour votre sécurité et pour votre repos. Ça doit être votre critère premier, avant tous les autres. Pour les femmes qui sont déjà mariées, encouragez vos maris à continuer à être des hommes qui sont à la ressemblance de Robert, de Boaz, de Christ, des hommes valeureux qui aiment leur épouse en se sacrifiant. Plus qu'à les encourager à aller faire du sport pour perdre du ventre ou être à la mode. Toutes ces choses sont utiles et on veut cela. Mais si votre époux n'est pas prêt à tout donner, à se sacrifier, à ne se donner aucun repos pour vous offrir le repos, eh bien, un beau corps, de beaux vêtements, ça ne vous servira à rien. Ayez les bonnes priorités. Pour nous, messieurs, cherchons, désirons à être toujours plus à la ressemblance de Robert, de Boaz, de Christ. Et pour cela, je nous encourage à passer peut-être moins de temps à la salle de sport, dans les magasins pour sculpter nos corps et les habiller, mais plus de temps à la méditation de la parole de Dieu, à la prière, à la piété, pour sculpter nos caractères, afin qu'ils soient à la ressemblance du caractère de Christ. Et ainsi, nous serons des sources de bénédiction, de sécurité et de repos pour nos épouses ou pour nos futures épouses. La stratégie de Boaz pour régler cette affaire au plus vite, donc monter à la ville et y rester, va se révéler payante. En effet, suite du verset 1, nous lisons « Or, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. » Et donc Boaz l'interpelle et il lui dit « Approche-toi, assieds-toi ici, toi, un tel. » Drôle de manière de s'adresser à un proche parent, n'est-ce pas ? Et cela d'autant plus que nous savons que voilà, Boaz est un homme valeureux, bienveillant, rempli de bonté. Alors, pourquoi cette formule bizarre ? Toi, un tel, viens. En réalité, c'est un choix volontaire de l'auteur, un choix de taire le nom de ce proche parent. Et nous verrons pourquoi un peu plus tard dans le message. Je vais vous donner l'explication, mais pas tout de suite. Et donc, maintenant que Boaz est face à ce parent, eh bien, il est temps de régler l'affaire, mais pas de n'importe quelle manière. Boaz veut faire cela tout en respectant la loi, tout en respectant la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous lisons verset 2, « Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Nous l'avons vu tantôt, la porte de la ville était l'endroit où tout le monde passait. C'était le seul endroit où on pouvait entrer et sortir. Mais la porte de la ville était en fait bien plus que cela. C'était à la porte de la ville que se passait tout le commerce et les échanges. C'était aussi, à l'époque, à la porte de la ville que se rendaient le droit et la justice. Et donc aujourd'hui, s'il devait exister un tel endroit à Bruxelles, eh bien, serait réuni à cet endroit unique, la chambre de commerce, toute la rue Neuve et ses commerces, les abattoirs d'Anderlecht et le palais de justice de Bruxelles, tout cela en un seul endroit. Et donc, lorsque Boaz réunit ses 10 anciens à la porte de la ville, c'est dans le but de régler une affaire légale, conformément à ce que la loi prévoit, sans la contourner. Boaz a le désir de régler cette affaire, de devenir le rédempteur ou d'offrir la rédemption à Naomi et à Ruth, tout en respectant et en accomplissant la volonté de Dieu. Et on voit le contraste avec Naomi, qui au chapitre précédent voulait régler l'affaire, obtenir le repos pour elle et sa belle-fille, mais en contournant quelque peu la volonté de Dieu. Alors que Boaz ici veut exactement la même chose, mais en respectant et en accomplissant ce que Dieu veut et exige. Et c'est un exemple pour nous tous, pour tous les chrétiens. La fin ne justifie pas les moyens. Non, notre but, c'est pas de faire le bien par tous les moyens. Non, notre but, c'est de craindre Dieu en priorité. Et c'est en craignant Dieu, d'abord et avant tout, qu'on fera ce qui est bon, bien et juste. Oui, Boaz est un homme valeureux et remarquable. Mais il y a plus et il y a mieux que Boaz. Il y a Jésus-Christ. Jésus qui dit, en effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite le dernier jour. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. Jésus qui dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus qui dit, à la croix, tout est accompli. Toute la volonté de Dieu a été parfaitement accompli par Jésus, et cela dans le but de donner le repos à des hommes et des femmes pécheurs. Devant Boaz, nous sommes dans l'admiration. Mais devant Jésus, nous sommes non seulement dans l'admiration, mais aussi et surtout dans l'adoration de notre Sauveur et Seigneur qui a tout accompli pour nous offrir la vie, le repos éternel et céleste. Maintenant que le proche parent est là et que le conseil d'anciens est réuni, l'audience peut enfin commencer. Et nous allons savoir maintenant qui de Boaz ou du proche parent aura droit de rachat sur Naomi et tout ce qui lui appartient. Qui sera son rédempteur? Qui épousera Ruth? Et donc nous allons voir cela dans notre deuxième point. Un homme exceptionnel, sacrifiant tout pour le repos des autres. Mais avant de nous concentrer sur l'affaire et son déroulement, discutons un peu de ce droit de rachat, ce droit de rédemption. D'où vient-il? Quel est son but? Et qu'est-ce qu'il nous apprend sur Dieu? Tout d'abord, d'où vient-il? D'où nous vient ce droit de rachat? Le droit de rachat est mentionné pour la première fois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique. Et ce livre de Lévitique, que l'on appelle aussi Code pour la sainteté, regroupe toutes les lois qui disent ce que les Israélites pouvaient faire ou ne pas faire. Et ce qui est intéressant de remarquer dans le livre de Lévitique, et si vous le lisez, c'est frappant, c'est qu'au début ou à la fin de chaque loi, nous lisons cette phrase qui revient sans cesse, comme un refrain. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ferez ceci ou vous ne ferez pas cela, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et au chapitre 25 du livre de Lévitique, verset 25, où nous avons ce droit de rachat qui est mentionné, donc je lis, « Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Vous ferez cela, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et donc, ce refrain que nous retrouvons un peu partout dans le livre de Lévitique répond à la question « D'où vient le droit de rachat ?» Eh bien, il nous vient de Dieu. C'est lui qui l'a prévu, c'est lui qui l'a voulu et qui l'a instauré. Maintenant, pourquoi ce droit de rachat existe-t-il? Quel est son but? Eh bien, il est très simple. Protéger chaque membre du peuple de Dieu de la pauvreté, de la misère. Par ce droit que Dieu a instauré, Dieu voulait en fait assurer la sécurité et le repos à ceux qui risquaient la pauvreté et l'abondance, en leur permettant de vendre leur propriété à un proche parent. Et donc, ça c'est le but, c'est de protéger, de faire du bien, d'offrir, de continuer à offrir du repos à son peuple. Et enfin, qu'est-ce que ce droit de rachat nous apprend sur Dieu? Eh bien, ça nous apprend que Dieu est profondément bon, rempli de grâce, qu'il se soucie, il est plein de bienveillance envers ses enfants. Qu'il ne cesse jamais de penser, de vouloir, de travailler au bien, à la sécurité, au repos de ceux qu'il aime. Passons maintenant à ce que nous attendons tous depuis la semaine passée. L'affaire, l'audience, cette question de qui de Boaz ou du proche parent deviendra le rédempteur de Naomi et de tout ce qui lui appartient. Qui épousera Ruth ? Si vous avez déjà assisté à une audience judiciaire ou si vous avez déjà vu ça à la télé, vous savez que c'est palpitant, c'est passionnant, rempli de rebondissements, c'est plein de suspense, deux parties qui discutent, qui débattent, et on a le sentiment que le verdict final pourrait pencher à tout moment, soit d'un côté ou soit de l'autre. Et pour cette affaire qui se passe à la porte de la ville, c'est pas différent. Une affaire pleine de rebondissements et qui se déroule en deux temps. Premier temps, versets 3 à 4, où Boaz expose à ce proche la raison de leur présence à la porte de la ville, face aux 10 anciens. Nous lisons. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, et elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, fais-en l'acquisition devant les habitants de la ville et les anciens de mon peuple. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat et je l'ai après toi. Je ne sais pas pour vous, mais à la lecture de ces versets, je me dis, si le but de Boaz est d'obtenir le droit de rachat sur Naomi, si son but est d'épouser Ruth, si son but c'est de devenir leur rédempteur, eh ben, ce n'est pas de cette manière qu'il va y arriver. Il est trop honnête, il en dit trop. On a même l'impression qu'il est en train de lui dire « Mais vas-y, vas-y, c'est une aubaine, c'est une affaire excellente. » Mais là encore, dans sa manière d'agir et de faire, Boaz nous montre à quel point il est un homme valeureux et intègre. Car ce qui le motive d'abord et avant tout, ce n'est pas son intérêt, ce qu'il pourrait obtenir, ce qu'il pourrait gagner, ce qui le motive, c'est le repos de Naomi et de Ruth. Et cela, que ce soit à travers lui ou le proche parent. C'est ce que Boaz nous a dit au chapitre précédent, au verset 13. Il dit, si c'est le proche parent qui vous rachète, c'est bien qu'il le fasse. Et donc, c'est sans surprise que nous lisons, fin du verset 4, la réponse du proche parent. Il répondit, « Je la rachèterai. » Et là, à ce stade, c'est la déception pour le lecteur, pour nous tous qui suivons l'histoire de Naomi et de Ruth depuis le début, parce qu'on est convaincu que c'est Boaz qu'il leur faut. Lui qui a tout pour être un bon rédempteur, un bon protecteur. Et en plus, on connaît son nom. L'autre, bah, on ne sait rien de lui. Il est anonyme, c'est un inconnu. Mais l'audience n'est pas encore finie. Car Boaz, avec ce souci de ne rien cacher et de dire toute la vérité, poursuit en disant au verset 5, « Le jour où tu rachèteras le champ à Naomi, tu l'acquerras aussi de Ruth, la Moabite, la femme du défunt. Et tu devras maintenir le nom du défunt sur son héritage. » Et là, retournement de situation. À cette information, le parent, verset 6, dit « Je ne peux pas exercer ce droit de rachat pour mon compte, sinon je détruirai mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas l'exercer. » Celui qui était prêt et décidé à exercer son droit de rachat, pour notre plus grand bonheur, se ravise et se désiste. Il refuse d'exercer son droit. Et la raison qu'il donne pour ce retrait est qu'il ne veut pas mettre en péril son héritage. Le proche parent n'explique pas en quoi son union avec Ruth lui ferait perdre son héritage. Et toute tentative de réponse ne serait que supposition. Mais ce qui ressort clairement de sa réponse est qu'il est plus préoccupé par la préservation de son héritage, de ce qui fait sa grandeur et sa gloire, que par le soin et la protection, le repos qu'il peut apporter et donner à Naomi et Ruth. Et ça se comprend. C'est légitime de sa part, c'est son droit. En effet, la loi en Lévitique parle du droit de rachat, pas d'obligation de rachat. Mais lorsqu'on sait qui est à l'origine de ce droit, sa volonté, son intention à travers ce droit de rachat, eh bien, ce droit sonne comme un devoir qui, pour ceux qui disent craindre Dieu, l'aimer et lui appartenir. Le proche a peur de tout perdre et refuse de faire du bien, de donner du repos à ceux qui en ont besoin. Et en fait, c'est pour cette raison, il me semble, que l'auteur tait son nom. Pas besoin de le connaître. Il doit rester anonyme. On doit l'oublier. Par contre, il y en a un qui est prêt à tout perdre, à tout sacrifier pour offrir du repos à Naomi et Ruth. Et son nom, on le connaît. C'est Boaz. Et on sait que Boaz a beaucoup à perdre. C'est un homme riche et puissant. Au chapitre 2, on apprend que Boaz a des serviteurs, qu'il est propriétaire de terres. Au chapitre 3, il donne à Ruth gratuitement, généreusement, sans effort, 6 mesures d'orge. Il est prêt à tout sacrifier, à tout perdre. Et pour acter cette cession de droit, les Juifs de l'époque avaient recours à une pratique très particulière. Et nous lisons ça à partir du verset 7. Autrefois, en Israël, pour valider toute affaire relative à un rachat ou échange, on retirait sa sandale et on la donnait à l'autre. C'était ce geste qui servait d'attestation en Israël. Verset 8, on continue. « Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Fais-en l'acquisition pour ton compte. » Et retira sa sandale. Alors, Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon, et que j'ai également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » C'est fait. Après une audience, une affaire pleine de rebondissements, pleine de suspense, à la fin, Boaz obtient le droit de rachat sur Naomi et tout ce qui lui appartient. C'est lui qui devient le rédempteur, leur protecteur. Boaz, cet homme valeureux qui n'a pas hésité à mettre tout son héritage, à perdre tout son héritage pour donner du repos et de la protection aux autres. Et encore une fois, on est dans l'admiration devant un tel homme. Mais là encore, il y a plus et il y a mieux que Boaz. Il y a Jésus, de qui la parole de Dieu dit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. » Ou encore, en Philippiens, « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et donc, gloire et louange à Christ qui a quitté sa gloire qu'il avait auprès du Père, qui est descendu sur terre, pris la condition d'un simple homme, qui est mort sur une croix pour nous faire du bien, pour nous donner du repos. Et maintenant, rapidement, pour conclure, troisième point et dernier point, témoin du Dieu qui donne le repos. Lisons les deux derniers versets, 11 et 12. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta famille semblable à Rachel et à Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Montre ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Pérets que Tamar a donnée à Juda. » Ces deux derniers versets, 11 et 12 de notre section ce matin, contrastent fortement avec les versets 19 et 21 du chapitre 1. Souvenez-vous, au chapitre 1, le peuple a été témoin du retour de Naomi du pays de Moab et de sa triste situation, conséquence de ses mauvais choix. Et voilà quel a été leur témoignage au chapitre 1 lorsqu'ils voient Naomi revenir. À partir, ils se disent quoi ? Mais est-ce bien Naomi ? Elle a tellement changé. Elle est abattue, triste, elle est marquée, elle est fatiguée. Elle n'est pas reposée. Et Naomi va confirmer ce manque de repos en disant « Ne m'appelez plus Naomi, mais Mara, car je suis amère, j'ai tout perdu. Je suis vide, je suis sans rien, ni mari, ni époux, ni enfant, ni descendance. » Mais là, versets 11 et 12, tout a changé. Un retournement total de la situation. Et le peuple est témoin de ce renversement. Et il ne se trompe pas sur l'auteur de ce renversement, de ce changement extraordinaire de situation. Il dit, c'est l'Éternel, Dieu, qui est l'auteur de ce changement. C'est lui et personne d'autre qui remplit, qui repose Naomi. Et cela, malgré son péché, ses égarements et ses fautes. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes encore témoins de ce Dieu qui renverse, qui change les situations, qui ne cesse de penser et de travailler au repos des pécheurs, en la personne de son Fils Jésus. Lui, l'homme, le Rédempteur parfait en qui nous trouvons le repos céleste, éternel et parfait. Si vous avez soif de repos, c'est en Dieu, en la personne de Jésus, que vous le trouverez. Je termine en lisant ces paroles de Christ dans l'évangile de Matthieu. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Prions. Merci Seigneur, parce que dans un monde imprévisible, plein de rebondissements, eh bien, lorsque nous regardons à toi, eh bien, nous pouvons dire que oui, tout était prévisible, que tu agis pour le bien, le salut des pécheurs, et tu ne te reposes pas de le faire. Et gloire à ton Fils Jésus, qui a vécu la vie parfaite, qui a été l'homme parfait et qui est notre Rédempteur parfait en qui nous plaçons toute notre espérance et notre confiance. Et nous te prions pour que ceux qui sont encore courbés et fatigués, ceux qui ont soif de repos, puissent le trouver en Christ. Et cela pour ta gloire. Amen.